58. Contemplation. Une porte de mon appartement donne sur les rochers. Des gradins, rongés par le temps et la mousse, font le tour du bloc escarpé qui soutient cette partie de l'édifice et, après plusieurs rampes rapides, établissent une communication entre le couvent et la montagne. C'est le seul endroit abordable de notre forteresse. Mais il est effrayant, et depuis la Sainte, personne n'a osé s'y hasarder. Les degrés, creusés inégalement dans le roc, présentent 1000 difficultés, et l'escarpement qu'ils côtoient, sans offrir aucune espèce de point d'appui, donne des vertiges. J'ai voulu savoir si, dans la retraite et l'inaction, je n'avais rien perdu de mon courage et de ma force physique. Je me suis aventuré au milieu de la nuit par un beau clair de lune à descendre ces degrés. Je suis parvenu sans peine jusqu'à un endroit où la montagne, en s'écroulant, semblait avoir emporté le travail des cénobites. Un instant suspendu entre le ciel et les abîmes, j'ai frémi d'être forcé de me retourner pour revenir sur mes pas. J'étais sur une plateforme où mes pieds avaient à peine l'espace nécessaire pour tenir tous les deux. Je suis resté longtemps immobile afin d'habituer mes yeux à supporter cette situation, et je songeais à l'empire de la volonté d'une part, de l'autre à celui de l'imagination sur les sens. Si j'eusse cédé à l'imagination, je me serais élancé au fond du gouffre qui semblait m'attirer par un aimant. Mais la froide volonté dominait mes terreurs et me maintenait ferme sur mon étroit piédestal. Ne pourrait-on proposer cet exemple à ceux qui disent que les tentations sont irrésistibles, que toute contrainte imposée à l'homme est contraire aux vœux de la nature et criminelle envers Dieu? Oh, Pulcheri, je pensais à toi en cet instant. Je comparais ces vains plaisirs qui t'ont perdu à cette erreur des sens que je subissais sur le bord du précipice et qui me poussait à abréger mon angoisse en m'abandonnant aux sentiments de ma faiblesse. Je comparais aussi la vertu qui t'eût préservée à cet instinct conservateur de l'être, à cette force de raisonnement qui, chez l'homme, sait lutter victorieusement contre la mollesse et la peur. Oh, vous outragez la bonté de Dieu et vous méprisez profondément ses dons, vous qui prenez pour la plus noble et la plus saine partie de votre être cette faiblesse qu'il vous a infligée comme correctif de la force dont vous eussiez été trop fier. En observant d'un œil attentif tous les objets environnants, j'aperçus la continuation de l'escalier sur le roc détaché au-dessous de la plateforme. J'atteignis sans peine cette nouvelle rampe. Ce qui, au premier coup d'œil, était impossible, devint facile avec la réflexion. Je me trouvai bientôt hors de danger sur les terrasses naturelles de la montagne. Je connaissais de l'œil ces sites inabordables. Il y a 5 ans que, dans mes rêveries, je m'y promène des yeux sans songer à y porter mes pas. Mais cette énorme croûte qui forme le couronnement du mont et dont les dents aiguës déchirent les nuées, je n'en avais jamais aperçu que les parois extérieures. Quelle fut ma surprise lorsqu'en les côtoyant, je vis la possibilité de pénétrer dans leurs flancs par des fissures dont le lointain aspect offrait à peine l'espace nécessaire pour le passage d'un oiseau. Je n'hésitai point à m'y glisser, et, à travers les éboulements du basalte, le réseau des plantes pariétaires et les aspérités d'un trajet incertain, je suis parvenu à des régions que nul regard humain n'a contemplé, que nul pied n'a parcouru depuis le temps où la sainte y venait chercher le recueillement de la prière, loin de tout bruit extérieur et de toute obsession humaine. On croit dans le pays que chaque nuit, l'Esprit de Dieu la ravissait sur ses sommets sublimes, qu'un ange invisible la portait sur ses escarpements, et aucun habitant n'a osé depuis approfondir le miracle que la foi seule opéra. La foi que les petits esprits appellent faiblesse, superstition, ineptie. La foi qui est la volonté jointe à la confiance, magnifique faculté donnée à l'homme pour dépasser les bornes de la vie animale et pour reculer jusqu'à l'infini celle de l'entendement. La montagne, tronquée vers sa cime par l'éruption d'un volcan éteint dans les premiers âges du globe, offrait à mes regards une vaste enceinte de ruines volcaniques fermées par les inégaux remparts de ses dents et de ses déchirures. Une cendre noire, poussière de métaux vomis par l'éruption, des amas de scories fragiles que la vitrification préserve de l'action des éléments mais qui craquent sous le pied comme des ossements épars. Un gouffre comblé par les atterrissements et recouvert de mousse, des murailles naturelles d'une lave rouge qu'on prendrait pour de la brique, les gigantesques cristallisations du basalte et partout, sur les minéraux, les étincelles et les lames d'une pluie de métaux en fusion que fouetta jadis une tempête sortie des entrailles de la terre. De grands lichens rudes et flétris comme la pierre dont ils sont nourris, des eaux qu'on ne voit pas et que l'on entend bouillonner sous les roches. Tel est le lieu sauvage où aucun être animé n'a laissé ses traces. Il y avait si longtemps que je ne m'étais retrouvé au désert que j'eus un instant d'effroi à l'aspect de ces débris d'un monde antérieur à l'homme. Un malaise inexprimable s'empara de moi et je ne pus me résoudre à m'asseoir au sein de ce chaos. Il me semblait que c'était la demeure de quelque puissance infernale, ennemie de la paix de l'homme. Je continuai donc à marcher et à gravir jusqu'à ce que j'eusse atteint les dernières crêtes qui forment, autour de ce large cratère, une orgueilleuse couronne aux fleurons bizarres. De là, je revis les espaces des cieux et des mers, la ville, les campagnes fertiles qui l'entourent, le fleuve, les forêts, les promontoires et les belles îles, et le volcan, seul géant dont la tête dépassait la mienne, seule bouche vivante du canal souterrain où se sont précipités tous les torrents de feu qui bouillonnèrent dans les flancs de cette contrée. Les terres cultivées, les hameaux et les maisons de plaisance qui couvrent les croupes amènes des mamelons se perdaient dans la distance et se confondaient dans les vapeurs du crépuscule. Mais à mesure que le jour grandit à l'horizon maritime, les objets devinrent plus distincts et bientôt je pus m'assurer que le sol était encore fécond, que l'humanité existait encore. Assise sur ce trône aérien, que la sainte elle-même ne s'est peut-être jamais souciée d'atteindre, il me sembla que je venais de prendre possession d'une région rebelle à l'homme. L'immonde cyclope qui entassa ses blocs pour les précipiter sur la vallée et qui tira le feu d'enfer de ses réservoirs inconnus pour consumer les jeunes productions de la terre, était tombé sous la colère du Dieu vengeur. Il me sembla que je venais de lui imposer le dernier sceau du vasselage en mettant le pied sur sa tête foudroyée. Ce n'était pas assez que l'Éternel eût permis à la race privilégiée de couvrir de ses triomphes et de ses travaux tout ce sol disputé aux éléments. Il fallait qu'une femme gravit jusqu'à cette dernière cime, autel désert et silencieux du titan renversé. Il fallait qu'au haut de cet autel audacieux, la pensée humaine, cet aigle dont le vol embrasse l'infini et possède le trésor des mondes, vint se poser et replier ses ailes pour se pencher vers la terre et la bénir dans un élan fraternel, créant ainsi, pour la première fois, un rapport sympathique de l'homme à l'homme au milieu des abîmes de l'espace. Me retournant alors vers la région désolée que je venais de parcourir, j'essayai de me rendre compte du changement qui s'est opéré dans mes goûts en même temps que dans mes habitudes. Pourquoi donc, jadis, n'étais-je jamais assez loin à mon gré des lieux habitables? Pourquoi, aujourd'hui, aimais-je en m'en rapprocher? Je n'ai pas découvert dans l'homme des vertus nouvelles, des qualités ignorées jusqu'ici. La société ne m'apparaît pas meilleure depuis que je l'ai quittée. De loin comme de près, j'y vois toujours les mêmes vices, toujours la même lenteur à se reconstituer suivant ses besoins nobles et réels. Et quant aux beautés brutes de la nature, je n'ai pas perdu la faculté de les apprécier. Rien n'éteint dans les âmes poétiques le sentiment du beau, et ce qui leur semble mortel au premier abord développe en elles des facultés ignorées, des ressources inépuisables. Cependant, autrefois, il n'était pas de caverne assez inaccessible, pas de lande assez inculte, pas de plage assez stérile pour exercer la force de mes pieds et l'avidité de mon cerveau. Les Alpes étaient trop basses et la mer trop étroite à mon gré. Les immuables lois de l'équilibre universel fatiguaient mon œil et lassaient ma patience. Je guettais l'avalanche et ne trouvais jamais qu'elle eût assez labouré la neige, assez balayé de sapins, assez retenti sur les échos effrayés des glaciers. L'orage ne venait jamais assez vite et ne grondait jamais assez haut. J'eusse voulu pousser de la main les sombres nuées et les déchirer avec fracas. J'aurais voulu assister à quelque déluge nouveau, à la chute d'une étoile, à un cataclysme universel. J'aurais crié de joie en m'abîmant avec les ruines du monde, et alors seulement j'aurais proclamé Dieu aussi fort que ma pensée l'avait conçu. C'est le souvenir de ces jours impétueux et de ces désirs insensés qui me fait frémir maintenant à l'aspect des lieux qui retracent les antiques bouleversements du globe. Cet amour de l'ordre, révélé à moi depuis que j'ai quitté le monde, proscrit les joies que j'éprouvais jadis à entendre gronder le volcan et à voir rouler l'avalanche. Quand je me sentais faible par ma souffrance, je ne cherchais dans les attributs de Dieu que la colère et la force. À présent que je suis apaisé, je comprends que la force, c'est le calme et la douceur. Ô bonté incréée, comme tu t'es révélé à moi, comme je te bénis dans le moindre sillon vert que ton regard féconde. Comme je m'identifie à cette bonne terre où ton grain fructifie, comme je comprends ton infatigable mansuétude. Ô terre, fille du ciel, comme ton père t'a enseigné la clémence, toi qui ne te dessèches pas sous les pas de l'impie, toi qui te laisses posséder par le riche et qui semble attendre avec sécurité le jour qui te rendra à tous tes enfants. Sans doute, alors, tu te pareras d'attraits nouveaux, plus riantes et plus fécondes. Tu réaliseras peut-être ces beaux rêves poétiques que l'on entend annoncer par les sectes nouvelles et qui montent comme des parfums mystérieux sur cet âge de doute composé étrange de hautaines négations et de tendres espérances. Ravi dans la contemplation de cette nuit sublime, j'en suivis le cours, le déclin et la fin. À minuit, la lune s'était couchée. La retraite me devenait impossible. Privé de son flambeau, je ne pouvais plus me guider dans ce labyrinthe de débris. Et, quoique le ciel fût étincelant d'étoiles, les profondeurs du cratère étaient ensevelies dans les ténèbres. J'attendis qu'une faible lueur blanchît l'horizon. Mais quand elle parut, la terre devint si belle que je ne pus m'arracher au spectacle que chaque instant variait et embellissait sous mes yeux. Les pâles étoiles du scorpion se plongèrent une à une dans la mer à ma droite. Nymphes sublimes, inséparables sœurs, elles semblaient s'enlacer l'une à l'autre et s'entraîner en s'invitant aux chastes voluptés du bain. Les soleils innombrables qui sèment les terres étaient alors plus rares et plus brillants. Le jour ne se montrait pas encore, et cependant, le firmament n'avait pris une teinte plus blanche, comme si un voile d'argent se fût étendu sur l'azur profond de son sein. L'air fraîchissait, et l'éclat des astres semblait ranimé par cette brise comme une flamme que le vent agite avant de l'éteindre. L'étoile de la chèvre monta, rouge et brillante, à ma gauche, au-dessus des grandes forêts, et la voie lactée s'effaça sur ma tête comme une vapeur qui remonte aux cieux. Alors l'empyrée devint comme un dôme qui se détachait obliquement de la terre, et l'aube monta, chassant devant elle les étoiles paresseuses. Tandis que le vent de ses ailes les soufflait une à une, celle qui s'obstinait à rester paraissait toujours plus claire et plus belle. Hespère blanchissait et s'avançait avec tant de majesté qu'il semblait impossible de le détrôner. L'ours abaissait sa courbe gigantesque vers le nord. La terre n'était qu'une masse noire dont quelques sommets de montagne coupaient çà et là l'âpre contour à l'horizon. Les lacs et les ruisseaux se montrèrent successivement comme des taches et des lignes sinueuses d'argent mat sur le linceul de la terre. À mesure que l'aurore remplaça l'aube, toutes ces eaux prirent alternativement les reflets changeants de la nacre. Longtemps l'azur, dont les teintes infinies effaçaient la transition du blanc au noir, fut la seule couleur que l'œil put saisir sur la terre et dans les cieux. L'Orient rougit longtemps avant que la couleur et la forme fussent éveillées dans le paysage. Enfin, la forme sortit la première du chaos. Les contours des plans avancés se détachèrent, puis tous les autres successivement jusqu'au plus lointain. Et quand tout le dessin fut appréciable, la couleur s'alluma sur le feuillage et la végétation passa lentement par toutes les teintes qui lui sont propres, depuis le bleu sombre de la nuit jusqu'au vert étincelant du jour. Le moment le plus suave fut celui qui précéda immédiatement l'apparition du disque du soleil. La forme avait atteint toute la grâce de son développement. La couleur, encore pâle, avait un indéfinissable charme. Les rayons montaient comme des flammes derrière de grands rideaux de peupliers qui n'en recevaient rien encore et qui se dessinaient en noir sur cette fournaise. Mais dans la région située entre l'Orient et le Sud, la lumière répandait de préférence ses prestiges toujours croissants. L'oblique clarté se glissait entre chaque zone de coteaux, de forêts et de jardins. Les masses, éclairées à tous leurs bords, s'enlevaient légères et diaphanes, tandis que leur milieu encore sombre accusait l'épaisseur. que les arbres étaient beaux ainsi. Quelle délicatesse avaient les sveltes peupliers, quelle rondeur les caroubiers robustes, quelle mollesse les myrtes et les cytises. La verdure n'offrait qu'une teinte uniforme, mais la transparence suppléait à la richesse des tons. De seconde en seconde, l'intensité du rayon pénétrait dans toutes les sinuosités, dans toutes les profondeurs. Derrière chaque rideau de feuillage, un voile semblait tomber et d'autres rideaux, toujours plus gracieux et plus frais, surgissaient comme par enchantement. Des angles de prairies, des buissons, des massifs d'arbustes, des clairières pleines de mousses et de roseaux se révélaient. Et cependant, dans les fonds des terrains et vers les entrelacements des tiges, il y avait encore de doux mystères, moins profonds que ceux de la nuit, plus chastes que ceux du jour. Derrière les troncs blanchissants des vieux figuiers, ce n'étaient plus les antres des faunes perfides qui s'ouvraient dans les fourrés, c'étaient les pudiques retraites des silencieuses amadriades. Les oiseaux, à peine éveillés, ne faisaient entendre que des chants rares et timides. La brise cessa. À la plus haute cime des trembles, il n'y avait pas une feuille qui ne fût immobile. Les fleurs, chargées de rosée, retenaient encore leur parfum. Ce moment a toujours été celui que j'ai préféré dans la journée. Il offre l'image de la jeunesse de l'homme. Tout y est candeur, modestie, suavité. Oh, Sténio, c'est le moment où ta pâle beauté et tes yeux limpides m'apparaissent tels qu'autrefois. Mais tout à coup, les feuilles s'émurent et de grands vols d'oiseaux traversèrent l'espace. Il y eut comme un tressaillement de joie. Le vent soufflait de l'ouest et la cime des forêts semblait s'incliner devant le dieu. De même qu'un roi, précédé d'un brillant cortège, efface bientôt par sa présence l'éclat des pompes qui l'ont annoncé, le soleil, en montant sur l'horizon, fit pâlir la pourpre répandue sur sa route. Il s'élança dans la carrière avec cette rapidité qui nous surprend toujours, parce que c'est le seul instant où notre vue saisisse clairement le mouvement qui nous entraîne et qui semble nous lancer sous les roues ardentes du char céleste. Un moment baigné dans les vapeurs embrasées de l'atmosphère, il flotta et bondit, inégal dans sa forme et dans son élan, comme un spectre de feu prêt à s'évanouir et à retomber dans la nuit. Mais ce fut une hésitation rapidement dissipée. Il s'arrondit et son sein sembla éclater pour projeter au loin la gloire de ses rayons. Ainsi, antique Hélios, au sortir de la mer, il secouait sa brûlante chevelure sur la plage et couvrait les flots d'une pluie de feu. Ainsi, sublime création du Dieu unique, il apporte la vie au monde prosterné. Avec le soleil, la couleur, jusque-là incomplète et vague, prit toute sa splendeur. Les bords argentés des masses de feuillage se teignirent en vert sombre d'un côté et en émeraude étincelante de l'autre. Le point du paysage que j'examinais de préférence changea d'aspect, et chaque objet eut deux faces, une obscure et l'autre éblouissante. Chaque feuille devint une goutte de la pluie d'or. Puis des reflets de pourpre marquèrent la transition de la clarté à la chaleur. Les sables blancs des sentiers jaunirent, et dans les masses grises des rochers, le brun, le jaune, le fauve et le rouge montrèrent leur mélange pittoresque. Les prairies absorbèrent la rosée qui les blanchissait et se firent voir si fraîches et si vertes que toute autre verdure sembla effacée. Il y eut partout des nuances au lieu de teintes, partout sur les plantes, de l'or au lieu d'argent, des rubis au lieu de pourpre, des diamants au lieu de perles. La forêt perdit peu à peu ses mystères. Le dieu vainqueur pénétra dans les plus humbles retraites, dans les ombrages les plus épais. Je vis les fleurs s'ouvrir autour de moi et lui livrer tous les parfums de leur sein. Je quittai cette scène qui convenait moins que l'autre à la disposition de mon âme et aux caprices de ma destinée. C'était l'image de la jeunesse ardente, non plus celle de l'adolescence paisible. C'était l'excitation fougueuse à une vie que je n'ai pas vécue et que je ne dois pas vivre. Je saluai la création et je détournai mes regards sans amertume et sans ingratitude. J'avais passé là plusieurs heures de délices. N'était-ce pas de quoi remercier humblement le Dieu qui a fait la beauté de la terre infinie afin que chaque être y puisât le bonheur qui lui est propre? Certains êtres ne vivent que pendant quelques instants. D'autres s'éveillent quand tout le reste s'endort. D'autres encore n'existent qu'une partie de l'année. Et quoi, une créature humaine condamnée à la solitude ne saurait sans colère renoncer à quelques instants de l'ivresse universelle quand elle participe à tous les délices du calme? Non, je ne me plaignis pas, et je redescendis la montagne, m'arrêtant pour regarder de temps en temps les cieux embrasés et m'étonner du peu d'instants qui s'étaient écoulés depuis que j'y avais vu régner l'humide pâleur de la lune. Nulle langue humaine ne saurait raconter la variété magique de cette course où le temps n'entraîne l'univers. L'homme ne peut ni définir, ni décrire le mouvement. Toutes les phases de ce mouvement qu'il appelle le temps portent le même nom dans ses idiomes, et chaque minute en demanderait un différent, puisque aucune n'est celle qui vient de s'écouler. Chacun de ces instants que nous essayons de marquer par les nombres transfigure la création et opère sur des mondes innombrables d'innombrables révolutions. De même qu'aucun jour ne ressemble à un autre jour, aucune nuit à une autre nuit, aucun moment du jour ou de la nuit ne ressemble à celui qui précède et à celui qui suit. Les éléments du grand tout ont dans leur ensemble l'ordre et la règle pour invariables conditions d'existence, et en même temps l'inépuisable variété, image d'un pouvoir infini et d'une activité infatigable, préside à tous les détails de la vie. Depuis la physionomie des constellations jusqu'à celle des traits humains, depuis les flots de la mer jusqu'aux brins d'herbe de la prairie, depuis l'immémorial incendie qui dévore les soleils, jusqu'aux inénarrables variations de l'atmosphère qui enveloppe les mondes, il n'est pas de chose qui n'ait son existence propre à elle seule et qui ne reçoive de chaque période de sa durée une modification sensible ou insensible aux perceptions de l'homme. Qui donc a vu de lever de soleil identiquement beau? L'homme qui se préoccupe de tant d'événements misérables et qui se récrée à tant de spectacles indignes de lui, ne devrait-il pas trouver ses vrais plaisirs dans la contemplation de ce qu'il y a de grand et d'impérissable? Il n'en est pas un parmi nous qui n'ait gardé un souvenir bien marqué de quelque fait puéril, et nul ne compte parmi ses joies un instant où la nature s'est fait aimer de lui pour elle-même, où le soleil l'a trouvé transporté hors du cercle d'une égoïste individualité et perdu dans ce fluide d'amour et de bonheur qui enivre tous les êtres au retour de la lumière. Nous goûtons, comme malgré nous, ces ineffables biens que Dieu nous prodigue. Nous les voyons passer sans les accueillir autrement que par des paroles banales. Nous n'en étudions pas le caractère. nous confondons dans une même appréciation, froide et confuse, toutes les nuances de nos jours radieux. Nous ne marquons pas, comme un événement heureux, le loisir d'une nuit de contemplation, la splendeur d'un matin sans nuages. Il y a eu, pour chacun de nous, un jour où le soleil lui est apparu plus beau qu'en aucun autre jour de sa vie. Il s'en est à peine aperçu et il ne s'en souvient pas. Ô mouvement, vieux Saturne, père de tous les pouvoirs, c'est toi que les hommes eussent dû adorer sous la figure d'une roue, mais ils ont donné tes attributs à la fortune parce qu'elle seule préside à leurs instants, elle seule retourne le sablier de leur vie. Ce n'est pas le cours des astres qui règle leurs pensées et leurs besoins. Ce n'est pas l'ordre admirable de l'univers qui fait fléchir leurs genoux et palpiter leur cœur. Ce sont les jouets fragiles dont ta corne est remplie. Tu la secoues sur leurs pas et ils se baissent pour chercher quelque chose dans la fange, tandis qu'une source inépuisable de bonheur et de calme ruisselle autour d'eux, abondante et limpide par tous les pores de la création.